La parole. L'insensé. Et on verra qu'il y a beaucoup de versets qui s'appliquent à ces
thèmes.
Mais ils sont dispersés un peu dans plusieurs chapitres. Mais donc ça représente différents comportements de notre vie de tous les jours.
Ils
sont tous soumis à un même critère. Pour chaque proverbe, on peut se demander mais qu'est-ce qui est sagesse et qu'est-ce qui est folie. Donc il y a toujours les deux côtés dans chaque proverbe. Alors le premier thème, c'est la sagesse. Mais je ne veux pas recommencer aujourd'hui parce qu'on l'a déjà beaucoup étudié hier. Mais le premier thème que je vais prendre maintenant, c'est celui de la famille. D'abord, dans la famille, il y a les parents et les enfants. Les parents, c'est le couple. Et dans les proverbes, il apparaît clairement que...
Pardon?
Le couple.
Ah, Mujiku, Tatun Baba.
Et dans les proverbes, il apparaît clairement que l'union d'un seul homme avec une seule femme est la norme. Et tous les deux participent à l'éducation des enfants. On a lu hier un verset, et il y en a plusieurs. Mais que l'enfant doit écouter l'instruction de son père et les enseignements de sa mère. Donc tous deux participent à l'éducation des enfants. Et maintenant, on va lire trois versets qui montrent que la femme dans le couple a une influence primordiale. Alors il faudra un peu feuilleter dans les proverbes. Mais on va commencer au chapitre 12, le verset 4. Quelqu'un le lit?
Téléphone nous dit naï. Tu dis bien manes, tu dis il est à mon débat. Tout au cadet, ouais, pourquoi on ouvre? Hein? Ben ça. Moi, je dis moi. Ah.
C'est 12, verset 4. Maintenant, le verset suivant, c'est 18, chapitre 18, verset 22.
Chapitre 18, hein?
18, verset 22.
Il y a eu un chapitre qui dit que je suis en train de me faire un peu de temps.
Et dans le chapitre suivant, chapitre 19,
chapitre 19,
verset
14,
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit il fallait que les mamans soient là nombreuses pour écouter, mais malheureusement, elles sont deux.
Ben, vous pourrez les relire avec vos épouses. En les regardant. Mais c'est vrai que la femme a une position très belle. On voit qu'elle est une faveur. C'est un beau cadeau. Et qu'elle est comme une couronne pour son mari. Et face à cette conception élevée du mariage, le péché sexuel est présenté sous des couleurs très sombres. Et hier, dans la première partie du livre des Proverbes, il y a plusieurs paragraphes qui s'occupent de l'adultère. On a vu que l'adultère avait des conséquences très néfastes, très mauvaises. Ça casse la relation. Ça casse les familles. Et c'est spécialement le chapitre 5 qu'on a vu hier, le chapitre 5 des Proverbes qui s'occupe de ce problème de l'adultère. Maintenant, les enfants. Que nous enseignent les Proverbes dans la relation parent-enfant?
Chapitre 4
des Proverbes. On peut lire les versets 3, 4 et 11 dans ce même chapitre.
Chapitre 4,
verset 3,
4,
11. Je me suis trompé, c'est pas le verset 11, c'est le verset 10. On voit que dans tous ces passages, la sagesse nous dit de rechercher une bonne relation entre les enfants et les parents. On va lire en verset 13, chapitre 13, verset 24.
Et tu vas là, chapitre 13, verset 24.
Ou
ama kumia vijini mwina.
Ujikai ukanda ne lukoji ujine mwana lukuna. Kaji, uji unamwana nji, uji unanukila kumukanda.
Donc il faut faire attention aussi de n'être pas trop sévère, trop brutal avec ses enfants. Il faut le discipliner. Mais il faut faire attention, comme nous dit Ephésiens 6, verset 4.
Verset
4.
Efeso isambombo inai. Ephesians 6:4.
Nenwenu batatu kanu kuishibana benu balele chini nubajumukishe bimpe nijibela ni jijumusha ya mukelene.
Un enseignement aux pères quand ils veulent mettre des limites à leurs enfants. De
ne
pas le faire sous le coup de l'émotion ou de la colère. Pour que les enfants ne s'irritent pas. Mais qu'ils puissent accepter cette punition. Et les enfants sont invités à plaire à leurs parents. Par exemple, chapitre 13 des Proverbes, verset 1.
Proverbe au chapitre 13, le verset 1.
Donc les enfants sont appelés à écouter leurs parents.
Bana, bajiba sengele la baba, écoutez les jibale jibab.
Tout comme les parents doivent écouter aussi l'Éternel, j'allais dire.
Ah, nunku baleji babu, ba écoutez les ja wa chendele.
Donc, pour acquérir cette sagesse qui se transmet aussi de génération en génération.
Bokuye bukufeta menji ajini chakula
et on peut lire un verset encore par rapport aux enfants dans le chapitre
15,
verset
20.
Voilà. On voit qu'un fils sage qui écoute, les parents peuvent se réjouir. C'est une bonne relation dans la famille. Un autre sujet, c'est le sujet des amis. On rencontre beaucoup de personnes dans la famille, dans l'église, dans le voisinage, qui sont mes vrais amis. Alors, quand tout va bien, quand les beaux jours sont là,
hein,
est-ce qu'on a beaucoup ou peu d'amis?
Pardon. Beaucoup.
Mais il faut distinguer qui sont les vrais et les autres. Alors on va lire quelques versets sur l'amitié. chapitre 14, verset 20.
Chapitre 14, verset 20. 20. 20. 20.
20.
20. 20. 20. 20. 20. 20.
20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
Vous êtes d'accord? On peut lire encore quelques versets dans le chapitre 19.
Les versets 4. Verset 4. Verset 8. Verset 8. Verset 9.
Verset
10.
Le verset 6.
Je
crois qu'on comprend tout, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Mais qui sont les véritables amis? Alors on peut lire au chapitre 17, verset 17.
Mulunda utu ananga mubikondo byonso.
Mwane tu utu walesha bulele la mukikondo cha jikenga.
Eyo.
Et puis on peut lire encore un verset, chapitre 18.
Puis mon bala kadimo un verset mu chapitre 18 mwanda mukulu.
Verset 24.
Verset amakumi abiri ni mwinayi.
Muntu uji ni balunda babuni.
Alors il y a toujours les faux amis et les vrais amis. Et on voit que le vrai ami aime en tout temps, en toutes circonstances. Et certains peuvent avoir des amitiés avec un frère plus une meilleure relation qu'avec un propre frère. Donc l'amitié est une belle chose. Et puis un vrai ami, c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui est franc.
Chapitre 27,
verset
6. Chapitre 27, verset 6.
Alors, on voit un ami peut nous blesser des fois. Parce que peut-être il a dit une vérité ou il a fait un reproche utile.
Ah, pour te voir, Et
par cela, je vais apprendre quelque chose. Tandis qu'un ennemi, il va éventuellement flatter ou.
Mais
un vrai ami va dire la vérité et ce qu'il
pense. Et
encore un verset sur l'hospitalité. C'est dans chapitre 25, verset
17.
Vous voyez un peu la relation. Je crois toujours aller chez une personne pour jouir son hospitalité.
Et
ici, la sagesse me dit, mais fais attention peut-être. Ton ami aimerait peut-être inviter d'autres personnes. Mais pas toujours toi. Donc ça demande un peu de discernement dans
ces relations.
Voilà. Un autre thème, c'est la vie et la mort. La vie peut avoir plusieurs significations dans les proverbes. Elle peut signifier le bien-être. Quand on a une vie où j'ai de tout, quand j'ai une famille harmonieuse, eh bien ça, les proverbes disent, c'est une vie qu'il faut souhaiter, qu'il faut rechercher. Chapitre 14, verset 30. Donc il est parlé de la vie du corps, comment je me sens, comment ça va pour moi. Donc quel est le contraire de la vie où j'ai une vie harmonieuse, quel serait le terme opposé? Si du côté de la sagesse, c'est une vie paisible, harmonieuse, quel est l'opposé? C'est la mort. Les proverbes nous disent que c'est le trouble dans la famille.
Chapitre 15,
verset 27. Donc il y a le côté de la folie qui est de provoquer la dispute dans la famille.
Et
il y a le côté de la sagesse qui dit, mais si vous refusez des cadeaux, des pots de vin,
Alors
vous vivrez. La vie peut aussi signifier la communion avec Dieu. C'est vivre dans la crainte de l'Éternel. On peut lire au chapitre 8, verset
35.
On voit que celui qui craint l'Éternel, celui qui recherche la sagesse, il a trouvé la vie. Cette vie en relation avec Dieu. Donc il y a un autre verset encore, c'est Proverbe
19:23.
On ne va pas le lire, mais vous pouvez prendre des notes. C'est un verset qui montre de nouveau que la crainte de l'Éternel, c'est elle qui conduit à la vie. Dans ce sens, le contraire de la vie, quel est le contraire de la relation avec Dieu? Si je n'ai pas de relation, c'est... Qu'est-ce qui me sépare de Dieu? C'est pas forcément la mort. C'est qu'est-ce qui va couper ma relation avec Dieu?
C'est péché.
C'est ça, oui. Avoir une bonne relation avec Dieu ou bien... Dans ce sens, le contraire de la vie est le péché et non pas la mort. On peut lire ça dans le chapitre 10, verset
16.
On voit que la vie ici est opposé au péché.
Hein?
C'est la vision que nous donnent les proverbes sur ce sujet.
Et
puis on a parlé de la vie, maintenant on va parler de la mort. Alors la mort, le proverbe ne la considère pas, n'en parle pas. Quand c'est la fin de la vie.
C'est
pas un événement ponctuel, purement physique. La mort y est présentée plutôt comme un domaine opposé à la vie. Et les proverbes en parlent, on fait allusion. Quand elle parle de la mort, elle fait allusion au séjour des morts. On va lire deux versets dans le chapitre
15.
Chapitre 15, verset 11.
On peut lire le verset 24 encore. Si on va lire le verset 24 encore. Alors on voit le sentier de la vie va en direction de la crainte de l'Éternel. Ça c'est le côté de la sagesse. Et le côté de la folie est représenté par quoi? Par le séjour des morts. Comme si Dieu voyait ceux qui ont la vie éternelle sont opposés à ceux qui sont qui vivent encore peut-être maintenant. Mais Dieu les voit déjà morts. Alors on ne va pas lire tous les versets, mais pour ceux qui prennent des notes, il en est parlé aussi au chapitre 27, verset 20. Au chapitre 23, verset 14. Et au chapitre 30, verset 16. Et chaque fois, la mort y est présentée comme un domaine opposé à la vie. Maintenant, un autre sujet, c'est la parole. Qu'est-ce ce qui sort de ma bouche? Chapitre 18, verset 21. On peut le lire. On voit la puissance de la parole qui peut être en bien ou en mal. Je peux mentionner sur la puissance de la parole, j'aimerais mentionner un verset dans Jérémie. Il n'y a pas besoin de tourner vos Bibles. Ce verset Jérémie était un homme intègre. Et on a voulu souvent lui faire du mal. Jérémie 18, 18 s'est mis. Ses connaissances font un complot contre lui. Et ils se mettent d'accord en disant, tuons-le à coups de parole. On voit que la parole peut tuer quelqu'un, lui faire du mal. Elle est très puissante. Alors cette puissance de la parole se manifeste dans deux domaines. D'abord, elle nous touche au plus profond de notre cœur. Elle touche notre cœur, ça peut être en bien ou en mal. Par exemple, chapitre 12, verset 8. Chapitre 12, verset 18.
Un tour du bamuneye acyakunakuna ati acapa umwene wanzita ati njimiya bene menji iki isanasha bantu.
Alors on voit qu'une parole dite à la légère peut faire beaucoup de mal, blesser. Mais qu'une parole sage peut apporter la guérison, faire du bien. Un autre verset, c'est Proverbe 16, 24. On ne va pas le lire, mais vous pouvez noter. La parole peut transmettre des nouvelles bienfaisantes, des choses qui font du bien. Par exemple, au chapitre 10, verset
11.
Chapitre 12, verset
14.
Verset 25
encore.
On voit qu'une bonne parole, une parole bienfaisante peut encourager certaines personnes.
Et
il y a encore d'autres versets, je vous les dis. C'est chapitre 15, verset 4.
Chapitre 15, verset 30.
On ne va pas les lire, mais chaque fois la sagesse dit, mais une parole bonne encourage.
Mais
il y a aussi l'autre côté. Avec des paroles, on peut lancer des rumeurs destructrices. Par exemple, chapitre 16, versets 27 et
28.
Alors on voit que par la même bouche, on peut dire des bonnes paroles, des paroles bienfaisantes. Mais aussi des paroles qui provoquent des malheurs. En particulier ceux qui critiquent tout le temps. Ceux qui critiquent tout le temps vont finir par créer des divisions. Et on voit que donc les paroles sont puissantes. Alors quelles sont les belles paroles? Aussi on a vu des paroles qui peuvent apporté la guérison. C'était la guérison, peut-être quelqu'un qui avait un souci, puis un encouragement. Mais les bonnes paroles sont des paroles honnêtes. Par exemple, chapitre
13,
verset
13.
Donc on voit l'importance de parler avec droiture.
Et il y a d'autres
versets, vous pouvez noter la référence.
Chapitre
28, verset
23.
On va pas lire, donc les fidèles paroles sont honnêtes. Elles sont peu nombreuses.
Chapitre
17, verset 28.
Chapitre 17,
verset
28.
Et puis je peux vous donner des références.
Chapitre 10, verset 19.
Chapitre 13, verset 3. Qui dit chaque fois que les paroles du sage sont peu nombreuses. Les paroles de sagesse demandent la maîtrise de soi. Il
ne
faut pas toujours réagir sous le coup de l'émotion. Un exemple, c'est donné dans chapitre
15,
verset
1.
Alors on voit que dans certaines situations, s'il y a des tensions dans une discussion, une parole dure va exciter la situation. Mais une parole sage va calmer la situation. Donc, ça demande la maîtrise de soi. Et vous pouvez noter encore les références
17, 27.
Et puis les paroles donc doivent être honnêtes, peu nombreuses. Demande une maîtrise de soi. Et puis elles doivent être dites à propos. Des fois je peux dire des paroles qui sont justes, c'est la vérité. Mais elles peuvent être tout à fait déplacées, elles ne s'appliquent pas à la situation. Chapitre 15, verset 23. Donc une parole à propos est agréable, fait du bien.
Vous
pouvez noter une autre référence, c'est le chapitre 10, verset
20.
Le paresseux est une figure qui apparaît toujours dans les proverbes. Il est un personnage un peu comique des fois.
Pardon?
Un personnage un peu comique qui fait rigoler. Parce qu'il veut bien entreprendre quelque chose. Mais il n'est pas capable de terminer. Un exemple, chapitre 12, verset
27.
On voit que peut-être il a chassé du gibier. Mais il ne va pas terminer pour le rôtir, pour pouvoir le manger. C'est l'image que les proverbes nous donnent de l'homme paresseux qui n'arrive pas au bout.
Vous
pouvez noter deux références, encore
19-24.
Donc 19-24, 26-15. Il refuse de voir la vérité en face, ou la réalité en face. On va pas lire les versets. Donc chapitre 22, verset 13. 26-16. Pour ne pas faire quelque chose, il va dire, ah mais il y a un lion sur la route. Ça lui donne, c'est une idée, il l'imagine, mais ça lui donne une bonne excuse pour ne rien faire. Mais à force de se protéger pour ne pas en faire trop, pour ne pas se fatiguer, il finit par ne plus se sentir à la hauteur. Par exemple, chapitre 20, verset 4. Ça vous comprenez très bien. Hein? Si on ne s'aime pas, il
n'y
aura pas de récolte. Et il y a encore une référence, chapitre
13,
verset
4.
Et il y a encore l'insensé. L'insensé porte plusieurs noms. Alors d'abord, il y a trois noms. Il y a le niais, le naïf. C'est celui qui n'a pas beaucoup d'expérience. Si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut nous rouler. C'est le naïf qui croit tout ce qu'on dit. Vous pouvez noter comme référence chapitre 14, verset 15. Et 22, verset 3. Ça, c'est le miel insensé. Les proverbes décrivent aussi l'insensé comme étant une personne stupide. Alors le stupide, le fou, le sot, c'est celui qui est là et puis qui parle et qui incite à la querelle, qui sème le trouble. Il n'a aucun respect pour la vérité. Ça, c'est le chapitre 14, verset 8. 14, verset 8. Et puis celui qui excite à la querelle, c'est le chapitre 18, verset 6. 15, verset 2. Et 26, verset 9. Il fait souffrir ses parents. C'est vrai que si on a un enfant qu'on aime et qui commence à se conduire mal, c'est une souffrance pour les parents. Et les proverbes nous disent qu'il est stupide. Chapitre 10, verset 1. Chapitre 17, verset 21.
Chapitre 17, 21 et 25.
Chapitre 17, 21 et 25.
Chapitre 17, 21 et 25.
Et les proverbes nous disent la sagesse, c'est de l'éviter.
Pardon.
Il faut l'éviter.
Ah,
Chapitre
13,
verset 20.
Chapitre 20.
On peut le lire. Voilà, il ne faut pas avoir des contacts réguliers avec ces personnes. Parce qu'elles vont semer le trouble. Et puis comme personne insensée, on a vu qu'il y avait le miel. Et il y a aussi celui qui est moqueur. Le moqueur, c'est celui qui ne veut pas écouter. Par exemple, chapitre 13, verset 1. On le lit. Alors on voit que le moqueur ne veut pas écouter. Il y a un autre verset qui dit la même chose, c'est 15, verset
12.
Le moqueur ne respecte personne. C'est même une sorte de mépris. Un manque de respect. Et cela rejoint la description des moqueurs. On l'a lu hier rapidement. Vous pouvez noter la référence 2 Pierre 3.
Pierre 3,
3, versets 3 à 6. C'est, ils suivent leur propre désir, ils n'écoutent personne. Ils oublient ou bien ignorent volontairement la parole ou la vérité. Alors on termine maintenant un survol un peu de certains thèmes de ces 600 proverbes. Qui sont dans tous ces chapitres 10 à 29. Le chapitre 30, ce sont les proverbes
d'Agur.
On ignore tout de cet auteur. Il y a des suppositions, mais ça ne sert à rien d'y entrer, on perdrait un peu son temps aujourd'hui. Ça concerne la relation avec Dieu. Et ça commence, on voit que cet Agur est un homme assez humble. Il reconnaît que Dieu est au-dessus de lui. Donc l'humilité est sous-jacente dans ce chapitre. On peut lire les versets 1 à 9.
Mwana wa yake jinji ya kijila mtu au ujua ndila itiele ujua ndila itiele ne ukala ne ulele jene ni menji buwa mtu jene jimulule mianda mtu jene mwaze uyila menji jene nelungi nilwa malu awachishila wapu wakubanda mulu wakukweka panshi kabiji wakubanda mulu wakukweka panshi kabiji nganye wakusanishi lupetele mubyanza bya bitunya nganye wakukuta mayi mukigwalu chanji nganye wakujajika kutenda kashi jiji umeli anji kwa yeye kakubeji kakusana mwena mashini njinkulomba maru abiti kubeni kuamba si mwaze kufwa umumu shile kujima ne kuamba kwa mashini kumi kumpi bubele anji bubanji nasha unjishi vya kutia viti jinku mbanyina. Wameme chukuchi chikupeni chandine yeko wa mani anye wachikaji mupele ne chidibi anye wa chinyani jina jantambi wani.
Voilà. On voit que c'est une personne assez humble. Il
n'est
pas orgueilleux, ambitieux. Mais il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Pour que je ne tombe pas dans la tentation. C'est aussi un homme qui sait s'émerveiller devant la nature. Et je vous conseille de le lire à la maison pour vous tout seul, c'est un pour chapitre.
Nji nous sengelele nini kubale chapitre ou pankaye nous fambelu un chapitre ou amushimu mkol.
Il s'émerveille, il se pose des questions.
Mouko et tu es amushimu mkol ujuje la makong.
Dans le même chapitre 30, on peut lire les versets 18 et
19.
On voit cette Agur qui admire mais qui ne comprend pas.
Il
s'émerveille, il se pose des questions.
Et
il sait qu'au-dessus de tout ça, il y a un grand Dieu.
Et
pour finir ce chapitre, on voit que c'est un homme qui n'aimait pas les disputes et les tensions.
Et on peut lire le verset
32. Oui. Si on voit que la dispute commence, il vaut mieux arrêter.
Et
trouver une autre solution. On voit qu'il n'aimait pas les tensions. Je m'arrête ici pour Agur. Ensuite, la première partie du chapitre 31. Ce sont les paroles du roi Lemuel.
Et
ces paroles qu'il nous dit, il les a reçues de sa mère. Alors, Lemuel, on connaît aussi très peu de choses sur Lemuel.
Lemuel, tu dis que tu m'as dit.
On sait que c'était un roi, mais pas un roi qui a régné sur Israël. Alors son enseignement lui vient de sa mère. On peut le voir au verset 2.
Mon verset Moïbiji, dis-moi où tu as
chapitre.
Chapitre 31, verset 2.
Et quelle est la première recommandation qu'elle lui donne, verset 3? Alors, je ne sais pas quand ça a été écrit. Mais je me pose la question. Si cette maman avait connu l'histoire de Salomon.
Parce que
c'est précisément ce qui a fait chuter Salomon. Salomon a été détourné de sa relation avec Dieu. Parce qu'il a commencé à donner toute sa force aux femmes. Et ce roi est aussi préoccupé par ceux qui sont souvent délaissés.
mukalenga utitu mona kabini muchimwandirisa mukuko kibukuji aba bajibajombola.
Cette maman dit à son fils, mais souviens-toi qu'il y a des gens qui sont, il faut que tu sois le protecteur de ton peuple.
Maman doit l'amour le jour mambilene.
Donc chapitre 31, versets 8 et 9. Voilà. Si on avait un roi, on aimerait tous qu'il soit comme ça. Qui s'occupe de ceux qui sont dans son pays. Défendre les délaissés. Défendre les malheureux et les pauvres. On connaît beaucoup de pays maintenant qui ont des dictateurs. Et le seul but des dictateurs, c'est de s'enrichir aux dépens du peuple. Mais ici, la vision de Dieu, la sagesse nous dit, mais non, c'est pas ça. Un bon roi protège son peuple. Ben voilà, l'influence d'une mère sur son fils, on voit que c'est important. Et les derniers versets de ce chapitre, c'est 22 versets. Dans l'original hébreu, c'est comme un poème qui a été écrit. Parce que chaque verset commence, je l'ai dit hier déjà, mais chaque verset commence par l'une des 22 lettres de l'alphabet
hébreu.
Et dans l'ordre A, B, C, D, etc. On peut dire que ce n'est pas très important, mais ça vaut la peine de le remarquer. C'est une forme de rédaction. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette dernière section l'alphabet de la femme admirable. Par cette structure de ce poème, mais aussi parce que l'enseignement de sagesse qui est donné on peut dire que c'est l'ABC d'une femme admirable, oui. Alors cette femme, pour vous, c'est un chapitre qui est connu, que vous citez souvent, ou bien c'est pas trop connu. On ne va pas le lire en détail, mais il s'agit d'une femme qui a toutes sortes de compétences. Elle est administratrice. Elle est commerçante. Elle est artisane, elle sait travailler très droit. Elle est philanthrope, elle fait des bonnes actions, des bonnes œuvres. Elle est aussi un guide. Et elle influence autour d'elle, ça va au-delà de sa maison. Elle contribue à la fortune et à la renommée de son mari. Alors, chapitre
31,
verset
11.
On va lire les versets 11 et le verset 23.
Vous avez dit les versets.
11.
Et 23.
Alors on voit cette relation entre mari et femme qui est bonne.
C'est tout le monde malade à faire même.
La confiance règne.
Dites que maintenant on a dit qu'elle est.
Et son mari est aussi apprécié. Alors on voit que c'est une femme quand même qui a certains privilèges. On va lire les versets 13 à 15 qui nous montrent que cette femme avait quand même une certaine aisance. On voit qu'elle est très active. On a vu que la sagesse, c'était d'être actif.
Et
pas d'être paresseux. On voit qu'elle se lève quand il est encore nuit. Qu'elle donne la nourriture à sa famille. On voit qu'elle a une belle maison. On voit qu'elle a des servantes. Donc c'est quelqu'un qui a fait privilégier. Mais le texte ne nous demande pas ou demande pas à toutes les femmes de devenir semblables à cette femme-là
qu'il
faut dire jouit de ressources matérielles, je dirais de dons assez exceptionnels, peu communs en tout cas.
Je n'ai pas compris.
Donc le texte ne nous demande pas de ressembler à cette femme qui quand même jouit de ressources matérielles assez exceptionnelles. Mais on peut voir quand même cet exemple de travail. Elle travaille avec joie. Il y a des bonnes relations dans la famille. Elle s'est organisée. Au verset 20, il est dit qu'elle ouvre ses bras aux malheureux. Alors il y a beaucoup de choses à retenir, mais on va retenir ce verset. On a vu que la sagesse, c'est aussi savoir contrôler ses paroles. Quel est le témoignage de cette femme au verset 26? Alors on voit qu'elle était très sage aussi avec ses paroles. Dans un sens, c'est un peu un concentré de la sagesse. Est-ce qu'il faut retenir de tout ce paragraphe? C'est le verset 30. La fin du verset 30. Il faut qu'on lise ensemble. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. C'est la fin du verset 30. J'aimerais terminer par un passage du Nouveau Testament. Qui nous montre que la sagesse nous concerne aussi. Le livre de l'Épître de Jacques. Au chapitre 3. Qui va nous donner un peu un résumé de tout ce qu'on a vu dans ce livre des Proverbes. Et c'est cette lecture qui terminera notre étude du livre des Proverbes. Donc on va lire Jacques 3, versets 13 à 18.
C'est
la pause.